À ce propos, voici ce qu'écrit Bernays. Je cite. Les psychologues de l'école de Freud ont montré que nos pensées et nos actions sont des substituts compensatoires de désirs que nous avons dû refouler. Autrement dit, il nous arrive de désirer telle chose, non parce qu'elle est intrinsèquement précieuse ou utile, mais parce que inconsciemment, nous y voyons un symbole d'autre chose dont nous n'osons pas nous avouer que nous le désirons. Un homme qui achète une voiture se dit probablement qu'il en a besoin pour se déplacer, alors qu'au fond lui, il préférait peut-être ne pas s'encombrer de cet objet et sait qu'il vaut mieux marcher pour rester en bonne santé. Son envie tient vraisemblablement au fait que la voiture est aussi un symbole du statut social, une preuve de la réussite en affaires. Ce grand principe voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous nous dissimulons vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle. Le propagandiste soucieux de réussir doit donc comprendre ces mobiles cachés sans se satisfaire des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement.
Alors comment ça fonctionne? La manipulation des émotions, c'est vrai que la publicité utilise souvent des tactiques émotionnelles pour influencer les consommateurs-consommatrices, parfois en exploitant les peurs, les désirs ou les insécurités. Elle utilise des disciplines scientifiques, psychologiques, neurobiologiques, sociologiques pour optimiser son impact, normalisant ainsi la pensée et les comportements. Donc on part d'une science exacte pour la transformer en une fausse science qui serait la publicité, quoi.
Juste, je voulais revenir sur ce que tu avais dit avant, parce que tu parlais de liberté. Et finalement, c'est un ressort de la pub de beaucoup parler de liberté. Ouais. C'est « sentez-vous libre, avec ces baskets, vous allez voler, vous serez plus libre ». Et la pub joue énormément là-dessus, nous faire croire que le produit va nous rendre libre, alors que finalement, c'est tout le contraire. Il y a aussi le vocabulaire qui tourne autour de ça, qui nous dit voilà, sur le bien-être, la liberté et notre capacité à nous empouvoirer finalement à travers un produit.
Ouais, carrément. Et cette idée, en fait, de liberté, on dit, mais la liberté, la consommation te permet de choisir entre deux produits, donc tu es libre. Non, parce que la liberté réelle, c'est de ne pas consommer, c'est pas de devoir choisir entre deux produits. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas consommer. C'est ça, la vraie liberté. Ça induit ça aussi, la publicité, le système marchand. C'est des injustices, des inégalités, des choix à faire. Et ben, le vrai choix, il est de ne pas consommer, quoi.
La publicité, finalement, voilà, tu l'as dit, elle est inégalitaire. Elle est inégalitaire, donc oui, on pourrait ne pas consommer, mais en fait, finalement, entre deux produits, on n'a même pas, des fois, la capacité de choisir, puisque c'est 500 entreprises sur les 3 millions françaises qui se partagent à peu près 80% du marché publicitaire. Donc on voit que, en fait, 500 sur 3 millions, c'est vraiment très très peu. Et c'est ces entreprises-là qui vont se tailler la part du marché et avoir accès à finalement, le cerveau des personnes et finalement induire un achat sur leurs produits. Finalement, au-delà du choix d'acheter ou pas, on n'a même pas le choix d'acheter entre deux choses. Puisque c'est vraiment un monopole de la publicité.
Ouais, c'est des multinationales qui possèdent plusieurs marques aussi et des sous-marques. Donc de toute façon, rapidement, tu penses acheter la concurrence, mais en fait, ça appartient au même groupe.
Finalement, la publicité, elle crée énormément de frustration. Elle ne permet pas du tout de se sentir libre, parce qu'en fait, il faut toujours ressembler à un modèle qui écrase tout le monde finalement, et auquel personne ne ressemble dans la vraie vie. On peut en parler rapidement sur le sexisme, personne ne ressemble aux femmes dans la pub. Elles sont beaucoup trop maigres, elles ont été retouchées, et c'est vraiment un gros problème, parce que voilà, ça entraîne une frustration et des comportements derrière qui peuvent être néfastes pour la santé, notamment en termes d'anorexie chez les jeunes femmes.
Ouais, complètement, c'est des injonctions paradoxales. La publicité propage des idéologies néfastes telles que le sexisme, l'ethnocentrisme, le matérialisme et la violence. Elle exploite les pulsions humaines et les frustrations pour promouvoir la consommation comme clé du bonheur, générant ainsi des sentiments de frustration et de violence chez celles qui ne peuvent accéder à ce modèle de vie. Donc en fait, elle participe à une forme de pression sociale, ouais, des normes irréalistes.
Le tour de force de la propagande idéologique moderne, c'est d'avoir réduit le concept de liberté au concept de désir, et c'est ce qui permet de voir que la manipulation est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre technique basée sur la contrainte et l'autorité. On peut le voir aujourd'hui avec l'idéologie du marché, dont l'un des ressorts principaux est la consommation, et la consommation fonctionne très exactement sur ce principe du désir et de la conversion du désir en acte d'achat. N'importe quelle publicité, n'importe quel système de propagande pour une marchandise va aujourd'hui s'appuyer sur cette mécanique du désir, sur cette mécanique de la représentation qui va s'adresser directement à notre pulsion. Et c'est cette sollicitation pulsionnelle ce recrutement du désir qui va agir comme le plus puissant vecteur de la consommation.
Là, j'ai envie de citer Kilbourne qui disait « La publicité vend bien plus qu'uniquement des produits. Elle vend des valeurs, des images, des concepts d'amour, de sexualité, de romantisme, de réussite et surtout de normalité. La publicité nous dit qui nous sommes et ce que nous devrions être. »
Voilà, c'est exactement, c'est très très bien résumé, je trouve. C'est, voilà, en fait, on a un modèle et qui correspond pas et qui est pas du tout représentatif de la population. Est-ce qu'on voit des personnes handicapées dans la pub? Non. Est-ce qu'on voit des couples LGBT dans la pub? Non plus, finalement. On voit surtout des couples hétérosexuels. Pareil, très peu de personnes racisées. Et puis c'est toujours aussi des personnes qui ont des moyens. Là, on parle même chez nous de génération d'une certaine violence, en fait, envers ceux qui ont les moyens pour acheter, pour écraser les autres, et ceux qui, au contraire, vont subir cette violence et vont essayer de tout faire pour devenir comme le modèle que la pub promeut.
Ouais, la dictature de l'apparence, quoi.
On a dit que la publicité était liberticide. Il y a un autre cas concret, c'est par rapport aux médias et à la presse. Parce que finalement, il y a certains médias qui n'existent que grâce à la publicité. Et les médias, finalement, c'est l'information. C'est l'information, et l'information, on sait que c'est le pouvoir, finalement. Et des citoyens bien informés, ils sont beaucoup plus à même d'avoir des décisions éclairées vis-à-vis de décisions de tous les jours. Et je pense que, enfin, vraiment... Il y a dans la publicité, avec le fait qu'elle dicte un peu certains codes aux médias et que les médias en ont besoin pour vivre, c'est un gros problème pour la liberté de la presse en France. Et nous, on est contre ça, à RAP, on estime que vraiment, il devrait y avoir une liberté de la presse et qu'elle ne devrait pas dépendre de subventions de la publicité. Et notamment, il y a eu des articles dans le Monde, je crois, ou Libération, et derrière, où il y a des publicitaires qui ont retiré leur financement, des marques qui ont retiré leur financement.
Absolument, les fonds de roulement transactionnels sont indexés sur les coûts d'achat annuels. Oui, depuis 82. Ah, sur les passifs immobilisés, alors on n'est plus sur les taux d'escompte. Je convertis les ratios.
Je suis sûr que tu comprends pas un seul mot de ce que tu dis.
Je fais mon travail, c'est tout.
Je te rappelle qu'on est acteur de films d'entreprise, on n'est pas censé travailler pour de vrai.
Hey, si tu crois pas en ton rôle, n'en écoute pas les autres, ok? Ah, Berthier, t'as reçu mon formulaire GJ35?
Attends, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. On est acteur, hein? On n'est pas comptable.
Ah bon?
Bah non.
Mais non, justement, je t'ai bien eu. C'était pour voir comment tu trouvais mon acting professionnel. Tu trouves que je suis crédible?
Ouais, tu déchires carrément, mec. J'ai toujours considéré que t'avais un énorme potentiel dans ce métier.
Sérieux?
Ouais, t'es un super acteur institutionnel. T'iras très très loin, le gars.
Trop bien.
Hey, salut tout le monde. Nicole, y a quelque chose pour moi?
Oui, un post-it avec rien écrit dessus, ainsi qu'un dossier plein de feuilles A4.
Très bien, ça fait très professionnel.
Merci.
De toute façon, je les lirai jamais. Merci.
D'ailleurs, on peut faire peut-être un point sur le coût aussi de la publicité. C'est jamais gratuit, en fait. En tout cas, c'est l'illusion de la gratuité. Ça coûte cher, les campagnes publicitaires sont répercutées dans le prix, en fait, des articles. Ça a également un coût pour les consommateurs et consommatrices.
Oui, c'est ça. En fait, la publicité, c'est pas du tout gratuit. Ça a vraiment un coût pour la collectivité. Donc, comme tu l'as dit, à la fois parce que la campagne publicitaire, elle a un coût, donc elle est répercutée sur le produit, mais aussi parce que finalement, elle nous encourage à consommer de plus en plus, donc à acheter plein de produits. Et derrière ces produits, bah, par exemple, si jamais on veut acheter un nouveau smartphone parce que c'est absolument ça la norme et qu'il faut avoir ce nouveau smartphone, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter l'ancien alors qu'il marche, donc ça produit énormément de déchets. Et ces déchets, eh ben, il faut qu'ils soient retraités, finalement. Qu'ils soient recyclés, qu'il y ait une filière derrière qui se mette en place. Et qui paye ça? C'est les collectivités. Et les collectivités, c'est nous. Enfin, c'est les impôts des personnes qui habitent là. En fait, la publicité, elle a ce double coût. On a quand même parlé là, des publicités papier, parce qu'on a beaucoup parlé de l'affichage extérieur. Les publicités papier, donc ça génère... J'ai plus les chiffres en tête, mais un nombre de prospectus par an, c'est incroyable. Je crois que c'est à peu près un quart... du papier en France qui est utilisé pour faire des prospectus publicitaires. Donc c'est vraiment incroyable. Et donc tout ça, c'est jeté à la poubelle. Et pareil, il faut le retraiter. Donc le dernier coût de la publicité, finalement, on en parlait un peu en début d'émission. Je parlais de publicité avec de l'alcool. Bah, ça, c'est un coût pour la société, finalement, parce que ça promeut un modèle d'alcool qui est bon. Donc ça peut, entraîner des problèmes d'alcoolisme. Et derrière, c'est le système de santé qui doit traiter ça. Mais c'est pas normal de promouvoir une drogue avec la publicité, je pense.
Ouais, il y a des, comment on dit, des écuries de voitures pour un divertissement inutile qu'est les courses automobiles, qui quand même par dépenser une énergie carbone qui disparaît juste pour du divertissement. En plus, ça soutient des marques, soit de boissons énergisantes, soit de boissons alcoolisées, alors que la loi Evin avait tenté de faire disparaître en fait la publicité pour les cigarettes, l'alcool. Donc, elle est revenue de manière détourné en sponsorisant des spectacles inutiles en plus.
Finalement, la cigarette a un petit peu marché, mais l'alcool pas du tout. Il y a aussi toute cette mise en scène finalement d'une tradition française qui serait que prendre un peu de vin à table tous les jours, c'est bon pour la santé, c'est bien, on va soutenir nos vignerons quand même. Et bien sûr, l'alcool peut être associé à des choses festives et c'est important de l'avoir en tête et c'est de se faire plaisir des fois. Mais en fait, c'est pas normal de mettre autant de moyens dans cette promotion. Surtout que voilà, bon, il y a des problèmes de santé publique derrière, on l'a un peu mentionné.
Hey, ça va les winners?
Hey.
Les gars, il me faut votre rapport annuel des ventilations comptables au plus vite. En intégrant les normes IFRS, bien sûr.
Quoi? Mais attendez, on sait pas faire, on n'y connaît rien, on n'a jamais fait ça, nous.
Eh ben, moi non plus, mon grand. Mais ça, c'est votre problème. Attendez, on n'a pas reçu de scénario, on n'a pas de texte, c'est du suicide. Ouais, eh ben, vous faites exactement comme d'habitude, vous improvisez. Ah, et j'oubliais, c'est pour demain, hein. Bonne chance.
Ouais, tu as l'impression de gâcher ton talent dans des films d'entreprise, alors que dans le fond, c'est pas ce que t'avais imaginé au départ, c'est ça?
Ouais, j'ai envie d'interpréter des vrais rôles, jouer dans des grands films avec des belles histoires. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire.
Mm-hmm. Genre jouer dans la prochaine vidéo de présentation de la Coffratech.
Non, pas du cinéma d'entreprise, du vrai cinéma.
Ah ouais, carrément, genre le prochain film des forces de vente de la Cipexo, je vois.
Ouais, enfin non, c'est pas
tu
vraiment
sais,
ce que
tu sais, mon garçon, dans notre très beau métier d'acteur de bureau, on a trop souvent tendance à enfermer les gens dans des rôles. Et je sais de quoi je parle.
Hey, ça va les winners? Alors il est où ce rapport?
Oui, enfin non, en fait on a décidé de quitter ce film institutionnel.
Ouais, on va faire du vrai cinéma maintenant, on n'est plus acteur de films d'entreprise. Hein? Attendez, ça fait 15 ans que vous bossez ici non-stop, tous les jours de 7h45 à 17h, et vous pensez vraiment que vous êtes acteur dans un film?
Oui, enfin je...
Vous êtes comptable à la COGIP depuis 15 ans les gars. Vous avez même pas remarqué qu'il n'y avait pas de caméra. Vous êtes vraiment trop cons.
On parlait peut-être des voitures tout à l'heure. Finalement, les voitures, c'est un peu... Je parlais de smartphone, mais les voitures, c'est un peu pareil. On se dit, voilà, on a une voiture qui roule actuellement, mais il faut avoir toujours un meilleur modèle, que ça soit... Et souvent, là, en ce moment, c'est quand même des gros SUV qui sont de plus en plus lourds. Il faut quand même avoir ça en tête. Et en fait, une voiture, quand elle est plus lourde, elle est plus polluante. Et c'est vraiment un problème, ce poids de la voiture. Déjà, c'est un problème de danger aussi au niveau de l'espace public, parce qu'on voit même plus ce qui se passe devant nous. Il y avait une histoire, je sais plus, d'un enfant, je crois, qui était passé sous les roues d'une voiture parce que le conducteur ne l'avait pas vu, tellement c'est énorme, ces engins, maintenant. Et puis, en fait, maintenant, avec la promotion des voitures électriques, ça fait un nouveau marché, encore un. On se dit, il faut ouvrir, on va passer aux voitures électriques maintenant, donc il faut que tout le monde jette sa vieille voiture pour, des fois qui sont pas si vieilles, hein, mais pour en prendre une nouvelle électrique.
Ouais, c'est bien la publicité qui a réussi à nous faire croire que la voiture électrique était symbole d'écologie, de transition écologique, alors que c'est polluant. De toute façon, le nucléaire, c'est une industrie polluante.
Au Japon, depuis près de 20 ans, les compagnies d'électricité utilisent les services de Kojima pour produire l'électricité dont les Japonais ont quotidiennement besoin. Pour fabriquer le combustible nucléaire, Kojima extrait l'uranium et l'enrichit. Ce combustible, une fois usé, Kojima le recycle. 10 grammes suffisent pour les besoins d'une famille en électricité pendant un an. Comme le Japon, de nombreux pays font confiance à la qualité des services d'un grand groupe français, Kojima. Kojima, la matière première de l'électricité nucléaire.
Exactement. Et alors, nous, actuellement, au niveau national, on a une campagne sur un peu les produits climaticides, et notamment sur les voitures. Et donc, pour la petite histoire, j'ai regardé des vidéos YouTube de publicité pour des voitures. Donc, je ne conseille à personne de faire ça, mais c'est un peu désagréable comme moment. Et pour en fait les analyser un petit peu, et finalement c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est que bon, j'en ai trouvé essentiellement des voitures électriques. Le message c'était vraiment, avec cette voiture vous polluerez moins, elle est beaucoup plus écologique, En plus, elle est calme, enfin pas très silencieuse. Voilà, silencieuse, merci. Et il y avait toujours tout ce registre de la liberté, allez où vous voulez. Et alors, c'était très drôle à quel point, enfin, ça parle à notre imaginaire finalement la publicité, parce que dans les pubs, notamment pour voitures, on les voit souvent en plein dans un désert, ouais. Ou dans des montagnes. On a l'impression qu'il y a personne.
Il y a jamais d'autres voitures.
Voilà, il y a jamais d'autres voitures. Des fois, il y a pas de conducteur. Ouais. Il y a pas de conducteur, donc c'est incroyable. En fait, ça nous fait croire que si on a la voiture, ça y est, on va pouvoir aller dans des endroits extraordinaires à l'autre bout de la planète. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est dire à quel point la publicité construit des imaginaires qui ne sont finalement pas les bons, j'ai envie de dire. Et à quel point, en fait, c'est un outil puissant pour façonner notre façon de penser et aussi au service du capitalisme.
Ouais, la publicité peut créer un sentiment de besoin pour des produits ou services dont les consommateurs consommatrices n'ont pas nécessairement besoin, contribuant ainsi à une surconsommation et un gaspillage. Et puis, on va l'évoquer un petit peu plus tard avec le publisexisme, il y a un impact direct sur l'estime de soi avec ces pubs qui véhiculent des messages dégradants ou stéréotypés, qui peut avoir un impact négatif, en particulier chez les groupes marginalisés.
Y aura plus rien, plus de place dans les océans pour mettre nos ordures dedans. Quand y aura plus de pétrole, mais comment qu'on va faire pour faire ramener nos petites bricoles de l'autre bout de la terre? On sera peut-être obligé de ne plus rien acheter, c'est horrible, mais comment faire sans nouvelles affaires? La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Nous les objets qui servent à rien, ça nous rend joyeux. Mais imagine un jour, y a plus assez d'eau pour même en cycle court laver tous mes petits hauts. Imagine y en a plus assez pour faire pousser du coton. Comment qu'on va trouver des manteaux de mi-saison? Imagine on est amené à réparer nos affaires, alors qu'en racheter ça coûte même pas plus cher. La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Nous les objets qui servent à rien, ça nous rend joyeux. Moi parfois j'ai peur qu'un jour au Bangladesh ils se disent que 10 centimes de l'heure c'est vraiment trop la dèche, qu'ils veuillent être payés comme de vrais humains. Mais alors comment acheter des t-shirts à 3,20€? Faut qu'on en profite pour acheter des choses, qu'on achète tout et vite avant que tout explose. La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Les objets, ça sert pas à rien, ça sert à rendre joyeux.